Avant de commencer mon intervention, je vais vous présenter les ouvrages et les auteurs sur lesquels je travaille, afin de vous permettre une meilleure compréhension et de contextualiser mon intervention. Donc, le premier, c'est Marc Mancari, avec son roman Mortorio, dont je vais vous proposer un bref résumé. Donc, en fait, il faut savoir que le roman, il met en scène Marc-Antoine Chanfaragne, donc c'est un quadragénaire qui traîne sa misanthropie dans la société actuelle. Donc c'est un libraire désabusé, il vit en solitaire dans un petit village dans le sud de la Corse et il vivote chichement dans sa librairie qu'il sert justement en été alors qu'il y a une masse touristique qui lui permettrait peut-être de sortir la tête de l'eau, mais non, bizarrement, il préfère un autre mode de vie. Et donc, il est complètement reclus dans sa maison de campagne, retiré en ermite. Il est incapable de trouver sa place dans cette société complètement pervertie par l'égoïsme et l'argent. Et donc, pour essayer de s'échapper de ce quotidien morose, il s'essaye en vain les littératures afin d'accorder ses mondes. Tant il est partagé entre la réalité de ses désirs et de ses révoltes et les créations de son imaginaire. Mais bon, apparemment à ça, il mène une vie atypique où il s'entoure de deux fidèles compagnons, deux frères, Trajan, qui est passionné d'architecture, d'histoire, et Mansouet, son frère, qui est un berger corse, frustre, taiseux, mais pourtant avec qui il s'entend si bien. Et le roman va basculer lorsque Mansouet va être assassiné lâchement par une bande de malfrats. Et c'est à partir de là que justement Marc-Antoine va prendre la décision de quitter l'île et donc de s'exiler. Et c'est justement toute la tension du roman où on alterne entre la beauté et la tragédie, entre la barbarie, entre la présence de l'homme et l'absence d'humanité, et le rêve et la réalité. Donc justement, ça joue son destin. Donc le deuxième ouvrage, c'est La possibilité d'une île, de Michel Houellebecq. Vous aurez vu que j'ai pris une photo flatteuse de lui. Voilà, j'ai été gentil. Donc le résumé, donc, comme vous pouvez le voir, donc, en fait, l'œuvre de Michel Houellebecq se construit sur une alternance de récits relatés entre Daniel 1, qui vit à notre époque, et ses réincarnations futures, Daniel 24, 25, qui sont créées à partir de l'ADN de Daniel 1 et qui vivent plusieurs centaines d'années plus tard. Donc ça constitue une sorte d'autobiographie, un carnet de vie que chaque descendant se transmet après leur mort afin de renseigner sur la période passée et d'ouvrir sur un futur que chaque clone espère radieux, mais on verra qu'on est loin de ça. Donc Daniel est un humoriste, cynique. On peut dire qu'il est entre Pierre Desproges et Guy Bedos, si on veut, pour rester soft. Et donc il s'amuse à déstructurer la société à travers ses spectacles, ses saillies humoristiques, ses sketchs. Il est sulfureux, narcissique, il court après la richesse et la gloire. Mais non, d'autant moins mélancolique et il se sent trop dans cette société. Et donc, il est aussi résigné face à cette société capitaliste, moderne, agressive. Il se croit arrivé d'une île où il pourrait fuir et trouver un bonheur. Et on verra aussi également que c'est loin d'être le cas. Donc, face à cette morosité, il va rencontrer une secte, les Elohimites, qui vont lui promettre grandeur et immortalité. Entre-temps, il va se séparer de sa compagne, rencontrer une compagne plus jeune, dont il va tomber éperdument amoureux. Il se rendra compte que la réciprocité n'est pas évidente. La différence d'âge fait que elle avait juste là pour s'amuser, elle est jeune, elle veut profiter, et lui espère finir sa vie avec. Et Il se sait en honte parce qu'elle trouvera quelqu'un de plus jeune et justement, c'est ça. Cela va accroître sa haine de la société qui vont inculquer à la jeunesse, au modernisme, chose à laquelle il ne se sent pas. Il rentre pas dans ces cases-là. Donc, en fait, c'est lors d'un séminaire organisé par les Elohimites sur l'île de Lanzarote, justement, où il va prendre la conscience de ce que cette secte va apporter et les innovations technologiques que cela va induire sur la société actuelle. Et donc, il va se lâcher par sa compagne, lâcher de tous, il va se laisser aller et il va donner suite aux sollicitations de la secte pour être le premier cas cloné. Et justement, avec ses talents d'écrivain de sketch, il va se laisser aller et écrire un récit de vie pour amorcer cette transition vers une vie immortelle. Donc, le troisième ouvrage, c'est de Angelo Rinaldi, donc c'est la Maison des Atlantes. Et donc, un bref résumé. Donc, voilà. Donc, c'est Tonio qui est le narrateur. Il est touché par la maladie et sur son lit de mort, il va se lancer à écrire une autobiographie qu'il destine à son fils Raymond. Donc, un souvenir en apprend un autre. Il va s'efforcer de retranscrire le plus fidèlement possible les événements marquants de son existence. Donc, c'est avec ce désir de se raconter que Tonio va mettre en place le drame existentiel de tout insulaire, quitter l'île mais y revenir. Et donc, le fil décousu des souvenirs, faussement décousu, justement, le fil narratif, mais pas sans rappeler les méandres et le fonctionnement de la mémoire. Donc, Tonio va raconter son ascension au sein de la bourgeoisie bastiaise. Donc, Tonio, qui est acerbe, pince sans rire, cynique, pour rappeler les personnages houellebecquiens et biancaréliens, donc va raconter les us et coutumes de la société corse. Et se sentant étouffé par l'île, il n'a qu'une hâte, c'est de la quitter, et en même temps quitter l'île, quitter ses parents. Donc voilà, donc c'est cette thématique de l'ambiguïté qui suggère l'éloignement des villes dans l'espace mais également dans les confins de la psyché, que ça renforce l'acte mémoriel. Donc je vais commencer ma. Donc les trois romans, donc Mortor, La possibilité du livre et La maison des attentes, ont en commun de relever l'importance de la question de l'image paternelle dans notre société contemporaine. Il s'agit de comprendre la relation que le narrateur entretient avec le père. Chaque œuvre met en scène des types de représentations paternelles, telles que le père biancarélien compétent, dur mais juste, le père absent houellebecquien et le père détesté rhinavien. Donc dans ces trois cas de figure, le père persiste à fabriquer l'identité, mais sur un mode complexe et négatif. Si le père incarne le monde des normes, des règles et des interdits moraux, il cesse d'être l'instrument indispensable à la construction identitaire du fils. Cependant, si l'éloignement du fils s'explique par ses désirs émancipateurs, la totale disparition de la figure paternelle laisse une marque indélébile dans le psychisme des protagonistes. Le père, qu'il soit autoritaire, permissif, dévorant, castrateur ou source de conflits, reste un modèle symbolique que l'on vénère, que l'on craint, que l'on rejette, cherchant à le remplacer ou à l'éliminer avec indifférence. C'est qu'on n'est pas père, on le devient, et c'est un don de la femme qui reconnaît l'homme comme père, un don de l'enfant qui reconnaît son père dans cet homme, don parfois difficile, voire impossible à offrir ou à accueillir qu'à la relation d'engendrement concerne le père, la mère et l'enfant. Il y a aussi des pères spirituels et adoptifs qui, sans passer par la chair, révèlent le sens de la paternité. et des pères indignes sans parole qui tuent la vie. C'est donc dans cette réflexion que va s'établir l'impossibilité de devenir père chez Daniel 1 et Tonion, et la perpétuation du père, initiateur au combat de la vie, chez Marc-Antoine. Donc, dans la mesure où on n'a jamais autant, dans la société contemporaine, réclamé la présence du père et constaté son absence, il ne faut pas nier que la figure du père n'est pas une figure bien connue, dont la signification serait invariable et dont on pourrait suivre les avatars, la disparition et le retour sous des masques divers. C'est une figure problématique, inachevée et en suspens, une désignation susceptible de traverser une diversité de niveaux sémantiques, depuis le fantasme du père castrateur qu'il faut tuer, jusqu'au syndrome du père qui meurt de miséricorde. Donc là, tu laisses quelques secondes. Donc on va s'attaquer, sans mauvais jeu de mots, au père Blancarélien. Vas-y. Donc le roman de Marc Blancaré donne à voir l'ambivalence de la figure paternelle, qui ne peut toutefois se dissocier de la tradition insulaire patriarcale dont elle est l'un des maillons reproducteurs. Le père Blancarélien renvoie une image sociale qui légitime son autorité et ses actions par un simple regard, un geste ou un mot. Ou devrait-on dire une langue. Le père se place surtout la source de la parole qui initie l'exemple à imiter dans le processus de transmission de l'identité culturelle et la langue maternelle comme un retour à l'origine, à l'espace qui a vu naître. Parce qu'il faut savoir qu'en Corse, on assiste à une société bilingue, puisqu'il y a le Corse et le français qui se côtoient. Donc il y a un bilinguisme et un biculturalisme. Donc la parole paternelle, biancarélienne, mesurée et sage, témoigne de l'existence d'un lien hiérarchique entre le père, qui est vu comme le maître, et le fils, cantonné au rôle de disciple. Elle exprime également la qualité de la transmission des éléments culturels et celle des relations familiales. Le père bénéficie de l'expérience et le narrateur se sent culturellement à sa parole par l'exemple. Avec une sagesse bienveillante, ironique mais patiente, la figure paternelle incite le fils à une écoute contrôlée mais active, afin d'attiser sa curiosité et sa capacité à être créatif pour redonner un souffle au patrimoine culturel corse. Donc cette figure du père vieillissante, ce généreux référent identificatoire, est prête à transmettre le pouvoir. Marc-Antoine y est sensible et se pose en relais. Je cite, c'était pourtant lui qui m'avait transmis cette langue. Je sais que je m'y suis mis à écrire, et particulièrement dans cette langue, le corse. C'était pour donner vie à ces mots à lui, pour tenter de m'approcher de la richesse des expressions qui étaient les siennes. Donc le père, qui est une entité prégnante de la culture méditerranéenne, exerce un rôle complexe dans l'imaginaire. Il s'inscrit dans l'éthos du père méditerranéen, qui est défini par un comportement fondé sur la famille agnatique, sur le lignage patrilinéaire, sur le courage physique, la loyauté, l'honneur. C'est également le membre protecteur du cercle familial dans sa dimension nucléaire. Il est assigné aux affaires extérieures, aux affaires extérieures, au cadre domestique réservé à la mère. Il est un maillon du temps insulaire. Il instaure la connaissance et l'attachement à elle-même de la société dans le passé et dans le futur, son honnêteté, son dévouement à la terre et aux valeurs de partage et de transmission inculquées au fils. Donc la figure paternelle, rude, rigide, taciturne, se considère comme hiérarchiquement supérieure à sa filiation. Le cercle familial repose alors sur un socle historique quelque peu instable, qui à terme crée des dissidences au sein de la relation père-fils. Malgré la violence des altercations, la figure paternelle biocarélienne, entre déconstruction et fascination, est aimée et surtout respectée. Nous nous aimions énormément et nous nous étions détruits à n'en plus pouvoir jusqu'à l'ultime réconciliation sur son lit de mort. Donc, par son opposition au Père, Marc-Antoine souhaite s'affirmer, se mesurer au charisme du Père, tutélaire et exigeant, mais également questionner le rôle des traditions et de leur transmission. Écarteler entre des valeurs et des normes traditionnelles et contemporaines au sein d'un système qui révèle la nature profonde de l'homme, Marc-Antoine ne trouva à s'exprimer que dans la soumission au Père. Mais j'étais trop orgueilleux pour lui concéder une victoire, pour reconnaître la puissance de la figure paternelle. J'aimais l'idée de m'être élevé tout seul, d'être un homme indépendant, de ne rien lui devoir, mais c'était son avis qui, à la fin, comptait par-dessus tout. Donc, l'avis paternel, craint mais réclamé, doit permettre à Marc-Antoine de s'orienter, de s'interroger sur sa condition et son identité. Donc, la figure paternelle, au sein du roman de Marc Evancarelli, est réellement la figure de la transmission, agissant comme la clé de l'identité masculine. Donc, après la transmission du langage, comme cadre de socialisation, le père transmet un patrimoine économique, doté d'une forte charge historique. Mon père a travaillé avant moi. Il m'a laissé de quoi vivre, malgré ma paresse, et un endroit pour dormir. Une librairie, une maison de campagne, de montagne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire corse, en Corse notamment, les terrains de montagne, considérés comme étant rentables, étaient réservés aux hommes, quand les espaces du littoral étaient donnés aux femmes. Surtout qu'à l'époque, dans les terrains du littoral, il y avait la malaria qui sévissait, donc on donnait les territoires aux femmes. Mais vous voyez que l'histoire a changé, puisque maintenant, c'est le territoire qui est prisé par ces masses touristiques, et donc c'est les familles maintenant qui se sont enrichies quand les montagnes sont un peu laissées à l'abandon, donc comme quoi leur retour. Parce que l'homme qui avait les terrains en montagne à l'époque était considéré comme un propriétaire foncier dominant avec lequel il savait se marier pour avoir un statut. Bon, depuis, ça a été l'inverse, on cherchait surtout les femmes qui avaient un terrain en bord de mer, c'était mieux. Donc, le père Biancarélien est à mi-chemin entre deux époques, traditionnelle et moderne, incarné respectivement par Marc-Antoine, le grand-père, et Marc-Antoine, le fils, qui est le narrateur. Donc, entre Marc-Antoine, le grand-père, Marc-Antoine, le narrateur, et peut-être Marc-Antoine, le père, dont on ignore dans le roman son prénom, mais on suppose que c'est aussi Marc-Antoine. C'est la transmission du prénom, qui est un fait social énormément présent dans la société corse. Le père et le fils doivent se partager ce bien immatériel, un nom. Le nom méditerranéen, cet organe toujours saignant, cette seconde peau, ce trésor et cette malédiction que les générations se passent comme un ballon de rugby, finalement. Donc le père donne au fils son prénom, ne souhaitant pas briser la lignée familiale, car au prénom est associé un capital symbolique dont l'attribution définie renforce ou affaiblit l'identité de l'individu par rapport aux lignées auxquelles il appartient de manière différente. Donc au prénom se mêlent les parcours et les histoires familiales. Donc en ayant le même prénom que le grand-père, et comme je disais, probablement du père, Marc-Antoine est désigné par le chef de maison pour être son futur successeur. Je cite, « Avant le vieux, il y avait son vieux à lui, ce grand-père que je n'avais pas connu, mais dont je portais le nom. » Donc Marc-Antoine est un des prénoms corses emblématiques de lignée, car c'est toujours du passé qui est issu le choix du prénom. Il emporte la marque, le destin et le reste. Cette transmission n'a peut-être pas pour but de légitimer aux yeux de tous, et spécialement aux yeux des cadets, les droits exclusifs des aînés sur l'héritage. C'est une question. Donc le prénom, qui s'est mis en filiation, opère comme une détermination à laquelle le porteur ne peut se soustraire. Le prénom convoque le souvenir par ressemblance. Je cite, « Quand je me laisse aller près du feu, je vois deux portraits sur la cheminée. Celui du vieux, qui était alors encore jeune, et puis le portrait de l'autre Marc-Antoine, mon grand-père. La lourde moustache taillée en pointe, lui donne l'air d'un turc. Je me dis que c'est son portrait craché. C'est vrai, mais cet air de sauvage oriental n'appartient qu'à lui. » Donc le prénom, esquis de l'ancien, passe dans le nouveau, assurant donc la pérennité communalisée du patronyme au détriment du sentiment de fatalité. Il permet à l'ancêtre de survivre au temps et à la mort, tout en confirmant la réalité historique de celle-ci. C'est pour cela que le prénom est un don du père, un don ambigu, d'une destinée au sens où on en désigne à l'enfant un destin, un passé et un futur. Ainsi peut s'expliquer ce sentiment d'étrangeté familière qu'éprouve Marc-Antoine. Je cite, « Je regarde cette gueule de soldat cruel, ce regard de rapace. Il n'a pas l'air d'avoir envie de rigoler. Non, je ne l'ai pas connu, mais il m'est si familier. » Et donc, on peut penser à la notion freudienne d'inquiétante étrangeté comme un retour du refoulé sous une forme d'un méconnu reconnu. Donc elle est intéressante puisque c'est de l'intime, que surgit l'étranger, l'inconnu, au point d'en être dérangeant, voire terrorisant. Donc, la figure paternelle néo-carélienne est une projection illusoire du Père comme Dieu qui donne la vie, pour la reprendre, mais il est aussi la figure du Fils qui se sacrifie pour donner au Fils les moyens de devenir lui-même Père. Le Père néo-carélien est appelé le Vieux, d'autant que si l'on en croit Christian Bovin, un Père, c'est quelqu'un qui représente autre chose que lui-même et qui croit en ce qu'il représente. Donc dans le roman, la majuscule à vieux est importante et témoigne du respect établi entre le père comme image dominante, comme mentor et modèle idéalisé, au sein d'une verticalité hiérarchique. Elle est lourde, le mot vieux, lui-même lourd de sens, implique une dimension de grandeur, ou du moins d'introduction à quelque chose de grand. Donc là, on va tourner. Alors. Donc pour s'émanciper de la présence paternelle, Marc-Antoine doit épuiser l'inspiration tout en la dépassant avec une décision d'abandonner le père pour s'accrocher à des repères. Donc, la présence paternelle n'est pas seulement physique, elle est également spirituelle. Marc-Antoine ressent cet attachement à la terre, hérité de son père, notamment lorsqu'ils allaient tous deux se promener à la chasse sur les sentiers de montagne. Et là, justement, ces sentiers qu'ont connus ses ancêtres, il a un sentiment profond de relation avec le passé, tout est même de relation à la mort. Je cite, « Ce rocher sur lequel je suis assis fut le sien, à mon père. C'est lui qui m'a fait découvrir les postes par lesquels je venais de passer, et c'est lui encore qui, à l'époque, m'avait fait les recommandations que je lui moi-même de donner. » Donc le père, Lyon-Carlien, est semblable au génie du vieux. Insulaire, souverain, éternel, immortel et invisible. Donc sa figure paternelle invite la mémoire, investit le vieux de son aura et structure le désir d'appartenance. Donc le père offre un passage entre un monde intime et un monde vaste, entre le connu et l'inconnu, entre le proche et le lointain. Le père est donc un passeur de vie, mais non de communiquer avec son enfant, il l'accompagne, lui manifestant toute sa foi et son espérance pour le porter au-delà de lui-même. Mon père se sentait fier d'être mon premier lecteur, la seule personne qui, dans l'intimité, pouvait réellement me dire ce qu'il pensait. Jamais il ne se gênait pour m'égratigner, mais toujours sur la question de la langue, car sur ce sujet, il se savait supérieur et c'était indiscutable, même si j'essayais de donner le change. Jamais il ne me critiquait sur le fond, me gratifiant, me procurant la force nécessaire pour jeter mes textes impertinents à la face du monde. Il me donnait la force d'un père. Et donc, il est intéressant de souligner l'ambiguïté du génitif ablatif, possession de provenance, de la force d'un père, qui peut être assimilée comme la force qui était celle d'un père, ou la force d'être père. Donc, la présence récurrente de la figure paternelle néo-carvélienne, mi-protectrice, mi-correctrice, joue les guides, les mentors, avant de disparaître, car il faut bien un jour ou l'autre tuer le père. Donc, justement, tuer le père est une des thématiques du roman de Michel Houellebecq. Donc, lorsqu'il y a l'avènement de la secte Elohimite, justement, l'avènement de la secte repose sur le meurtre du père, qui est également appelé le prophète. Ce dernier est assassiné par un jeune fidèle, et les compagnons du prophète vont justement fomenter un plan de remplacer le prophète mort par son fils et faire croire qu'il s'est réincarné et donc prouver la légitimité de leur secte. C'est astucieux, mais un peu terrorisant quand même. Donc je cite Vincent, donc le fils du prophète, ressemblait énormément au prophète. L'expression de leur regard était bien différente et même opposée. C'est sans doute ce qui m'avait empêché de m'en apercevoir. Mais les principaux traits de leur physionomie, la forme du visage, la couleur des yeux, l'implantation des sourcils étaient d'une identité frappante. Ils avaient de surcroît à peu près la même taille et la même corpulence. Donc, une jeune fidèle qui est témoin de l'assassinat sera également tuée pour ne pas dévoiler la supercherie. Donc, cette nouvelle religion se fonde bien sur un meurtre, celui du père. Donc, au-delà de la. Donc, le meurtre de la jeune fille, pour ne pas dévoiler la supercherie, trouve qu'au-delà de la parodie freudienne, il s'agit bien et bien d'un meurtre commis par des crapules. On n'est plus seulement dans le symbolique, mais dans le réel. Donc, le meurtre du père constitue une modalité radicale de l'éviction du père, qui confirme que la figure paternelle n'a jamais autant d'existence que lorsqu'elle est touchée par la mort. Le détachement de la figure du père est donc l'aboutissement réussi de la quête de renouveau, comme le révèle le nouveau prophète lors de son allocution. Vous êtes la première génération de la nouvelle espèce appelée à remplacer l'homme. Vous êtes les premiers néo-humains. Je suis l'instant zéro. Vous êtes la première vague. Aujourd'hui, nous entrons dans une ère différente, où le passage du temps n'a plus le même sens. Hein. Aujourd'hui, nous entrons dans la vie éternelle. Il sera gardé mémoire de cet instant. Car Vincent aussi est une parodie du nouveau genre humain. La dernière phrase est d'ailleurs une parodie de la parole de Jésus. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et une autre scène, c'est justement allusion à cette parodie de la résurrection christique, je cite, au moment où un rayon de soleil couchant, traversant les nuages, illumina l'ouverture de la grotte, Vincent sortit et s'avança sur le terre-plein. Une expression d'adoration emplit les visages, certains levèrent vers le ciel les bras écartés, mais il n'y eut pas un cri, pas un murmure. Vincent ouvrit les mains et après quelques secondes, il prit la parole. « Je respire comme chacun d'entre vous, » dit-il doucement. « Pourtant, je n'appartiens plus à la même espèce. Depuis son origine, l'univers attend la naissance d'un être éternel. Cet être est né aujourd'hui, un peu après 17 heures. » C'est très précis. Donc, le meurtre du père permet au fils d'exister et de se faire un nom. L'un comme l'autre auront tenu leur place par rapport à la hiérarchie et le limite où le père trône au sommet. Mais désormais, Vincent est résolument libre et s'élève en-dessus encore de l'image paternelle. Avec la mort du prophète, pas seulement métaphorique, Vincent à vos souhaits, Vincent prend la place du père avec une I minuscule, et du père avec une majuscule, en le faisant disparaître en tant que référent. Donc se bâtir ni pour lui, ni contre lui, mais par rapport à soi-même et au monde. Donc tuer le père représente pour Vincent, tuer le père représente pour Vincent la condition nécessaire à l'accomplissement de la liberté et à la vie éternelle. Maintenant, le père de Daniela, le narrateur, je vais être très long, je suis désolé, mais le père de Daniela est mentionné brièvement deux fois au cours du roman. Donc Daniela évoque tout d'abord avec une certaine incertitude son origine. Mon père, à ma connaissance, était breton. Et puis son parcours professionnel. Mon père était devenu cadre. Voilà, c'est tout. Néanmoins, malgré ces brefs, très brefs rappels, la quête du père à sang chez Daniela comprend des trous, des lacunes et des zones d'indétermination qui plongent le lecteur dans le doute et empêchent le narrateur de reconstituer le passé paternel. Donc, il y a un étrange anonymat entre Daniela et son père. Son absence est confuse, entourée de mystères, et Daniela ne juge ni utile ni bienvenue de reconstruire l'image paternelle. D'ailleurs, dans le premier roman d'Albert Camus, une interrogation qui est posée, c'est finalement, il ne sait pas qui est son père, mais lui-même, qui est-il ? Daniel est père, pourtant, mais il ne l'assume pas. Il rejette ce rôle avec un pessimisme alarmant. Plus encore, la naissance, y compris la sienne, ce qui est amusant, lui inspire un dégoût légitime. Aussi viscéral que, je cite, cette authentique horreur face à ce calvaire ininterrompu qu'est l'existence des hommes. Donc en fait, Daniel reproduit avec son fils les manquements relationnels qu'il a hérités de l'absence de son père. Donc face au suicide de son fils, qu'il a abandonné, sachant que l'abandon est une thématique récurrente chez Michel Houellebecq, Daniela, le narrateur, est indifférent puisqu'il n'avait jamais aimé cet enfant de toute façon. Et il n'éprouve aucun regret. Le jour du suicide de mon fils, je me suis fait des œufs à la tomate. Ça rappelle à quelque chose très l'inquiétude camusien. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. C'était joyeux chez Michel Houellebecq. Donc en fait, la paternité n'a rien de légitime à ses yeux. Donc, Daniela donc, dresse un constat sans concession sur le rôle du père et sans satisfait d'avoir brisé le cercle illimité des reproductions des souffrances qui était peut-être le seul acte de rébellion authentique dont il pouvait se prévaloir. Noblesse, authenticité, dans la mesure où dans cette optique, l'existence commence pour moi ou à cause de moi. Parce qu'il n'a ni choisi de naître ni d'engendrer, Daniela assimile la paternité à un processus renouvelable car imposé à des gens qui n'auraient pas dû naître et qui n'auraient pas dû être. L'histoire paternelle se répète, donc il faut reconnaître et comprendre que nul ne peut donner ce qu'il n'a jamais reçu. Et donc c'est en ce sens que Daniela se refuse à prendre ses obligations paternelles vis-à-vis d'un fils qu'il juge aussi bête que sa mère et aussi méchant que son père. Et d'ailleurs, le suicide est un véritable soulagement. Il s'interroge. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vaut-il mieux qu'un lion mort ? Donc on peut s'interroger, est-ce que le fils représentait ce lion ? Est-ce que c'était un individu amené à devenir le roi de la jungle urbaine ? Vas-y. était-il à naître le roi de la jungle urbaine, là où le père justement a échoué? Et est-ce que le fils avait dépassé le père? Allait-il grandir, devenir beau, exilant sa jeunesse, ce que regrette le narrateur, et cette jeunesse justement qui était perçue comme ostentatoire par un père jaloux? Et donc le fils devient une menace, un concurrent. Et cette relation, désormais pervertie par le ressort tragique de cette jalousie à tiroir, dénature le juste contact qui doit s'établir entre un père et son fils. Donc la jalousie conceptuelle qui émaille la relation entre Daniela et son fils n'est pas sans rappeler le récit mythologique de Dédale. Donc Dédale, pour faire court, c'était donc cet ingénieur de talent, cet architecte de génie, qui avait pris sous son aile son neveu, Talos, et voyant, au fur et à mesure qu'il lui apprenait les rouages, il voit son neveu le surpasser, recueillir tous les louanges, et donc, jaloux de son neveu, il décide de tuer. Donc la haine de Daniela vis-à-vis de son fils se manifeste à travers l'indifférence et la jalousie. Et en fait, c'est sans doute un non-détachement pour le père de ce conflit oedipien. Donc un complexe d'Oedipe par rebours, où la mort du fils rival maintient l'omnipotence paternelle et la revendication de toute puissance qui en découle, ce qui suggère même en référence à Cronos une sorte d'immobilisme temporel incarné par l'utopie. Donc en fait, une absence d'idéal paternel qui est inséparable de l'absence du devenir père, car pour devenir père, il faut inévitablement tuer son propre père. Donc le meurtre symbolique du père, avec un P majuscule, assimilé à un désir refoulé, est impossible et l'ombre imposante, pesante, agit comme un procédé inhibiteur et castrateur. Ainsi, en se réjouissant de la mort de son fils, Daniela se destitue dans son statut de père et espère échapper à la castration que lui imposerait la réussite du fils. Donc le discours paternaliste de Daniela n'est finalement qu'une extension de sa pensée globale sur la société contemporaine. Incapable de trouver l'apaisement dans ses relations avec autrui, l'impuissance à son progrès proportionnel à la mondialisation néolibérale et la crise morale, Daniela, en père moribond et lâche, voit dans la mort du fils un soulagement face à la catastrophe immanente qui touche les sociétés modernes. Donc en fait, de père raté en fils grandiose, potentiel, Daniela mésestime avec force sa filiation. Il n'hésite pas à déstructurer le cadre paternel dans lequel ce fils se doit de grandir. Il en redessine à terme les contours. Mais la prise de pouvoir du fils, sur le père est inconcevable et l'impossibilité d'une manœuvre est tout aussi réelle. Le fils est voué au désastre. Alors, c'est encore assez long. Est-ce que vous voulez que je continue ou peut-être si vous souhaitez faire une pause, je ne sais pas.
C'est-à-dire qu'après, il y a une autre session.
Ah, c'est pour ça, donc.
Oui, donc, est-ce que vous pouvez peut-être résumer peut-être,
Alors, je résume grandement. Donc, dans le roman de... Donc, je vais résumer. Donc, dans le roman de Angelo Rinaldi, Tonio déteste le père. Il le hait. Il le rend coupable de sa commission prolétaire. En fait, il le rend coupable de leur faible condition. Et le père est un père alcoolique, brutal, raté, tout simplement. Et en fait, c'est un père qui l'a éloigné du règne de l'argent, parce que lui, il veut réussir. Il est jaloux, justement, de l'échec paternel. Et il dit, je préfère être un bâtard. Je préfère être un bâtard qu'avoir un père pauvre. Il dit justement, n'importe quel père, plutôt que le boulanger, la bâtardise plutôt que la plèbe. Voilà. Donc en fait, il reproche à son père d'être en bas de l'échelle sociale et d'être la cause de ses malheurs finalement. Donc, c'est juste une citation. J'avais toutes les raisons du monde pour détester mon père, qui trouvait normal que je m'élève pas au-dessus de la condition d'ouvrier qui lui laissait crever de faim sans rien perdre de sa belle humeur. Vas-y. Il ne serait trop facile le portrait d'un père indigne, il ne serait pas mensonger. Donc, on va tourner, vas-y. Donc en fait, la mort du père chez Tonio, c'est une joie incommensurable, et c'est le seul moment où il se rapproche de sa mère, puisque justement l'élimination du père donne naissance à des sentiments maternels jusque-là refusés et dénigrés, et à des formulations puissamment oxymoriques. L'embellie du deuil de mon père. Son père, donc c'est Augustin. Augustin est mort. Quelle joie, quel bonheur. Tourne encore. Tourne encore. Donc, je vais passer directement à la conclusion, parce que comme ça sera plus facile. Donc, en fait, donc, la quête du père s'avère difficile et on assiste au déclin social de l'imago paternel. Mais la diapositive, si tu veux. Donc, chez Marco Vaccaré, chez Michel Houellebecq et Angelo Rina, la paternité apparaît vaine, voire impossible. Donc, si biologiquement Daniela et Tonio ont en santé, mais ils n'assument pas le statut de père, Marc-Antoine, quant à lui, n'envisage pas la paternité. La relation qu'ils entretiennent avec leur propre père est servie par une narration à la structure fragmentée, illustrant l'idée de construction et de déconstruction qui, d'une part, sollicite la mémoire pour retranscrire les souvenirs des moments passés avec le père, et d'autre part, capte des images évanescentes de la figure paternelle. Donc l'âge postmoderne déconstruit le moi qui apparaît de plus en plus comme fiction faite de souvenirs fragmentaires, de motivations discordantes, de causes et d'effets masqués, d'idées gaspillées un peu partout. Postmodernisme et plus multiplicité mentale, vas-y, coïncideraient autour de cette désintégration du moi, source d'illusions et de souffrances innombrables. Donc c'est une souffrance qui est liée à l'absence du père comme référent culturel, idéologique, identitaire, mais également comme facteur de progression. Donc le père défaillant et en déclin générerait donc la névrose qu'expriment les narrateurs myocaréliens, ouémékiens et rinaldiens. Donc ces derniers se heurtent au nom du père, tel que le théorisait Jacques Lacan, pour désigner l'incompétence de la fonction paternelle à n'assumer que sa figure symbolique et à en délaisser le réel. Le nom du père trouve une résonance dans le père intériorisé, conceptualisé par Gérard Mandel, au nom duquel s'exhorte la révolte contre le père qui est conditionné par le schéma du père symbolique. Pourtant, le père est réel, toujours, et c'est bien pour démentir cette présence que l'ensemble va se construire un père imaginaire à la mesure de ses ambitions et de ses déceptions, pour rappeler Tonio de la Maison des Attentes. Ainsi, ce manquement dans la relation avec le fils nourrit la névrose et la résignation. Il enferme Marc-Antoine, Daniela et Tonio dans l'attente interminable de leur relation paternelle. Dès lors, la sanction paternelle concentre en elle des relations imaginaires et réelles, toujours plus ou moins inadéquates à la relation symbolique qui la constitue essentiellement. Pour se réaliser, l'homme doit se mesurer mythiquement au meurtre du père, puisque le vrai père, le père symbolique, est le père mort. Donc de la haine du père inaldien au refus d'assumer ce rôle par les narrateurs ouémékiens, de l'échec de la paternité au père dévoué et biancarélien, Marc Biancaré, Michel Houellebecq et Angelo Rinaldi montrent les exigences de la paternité et les responsabilités qui en résultent. Le dernier. Le dernier, voilà. Donc la figure tartanée a donc une place importante au sein de ses romans, mais à ses problèmes en mettant en scène toute une galerie de pères cruels, indifférents, absents ou tendres pour exorciser le tragique de la vie et de la révision de la relation filiale. Donc dès lors, il s'oppose à la figure du père Guéméquien. Donc attendez, je me suis perdu. Donc à défaut d'être père et d'en exercer la sanction, ils sont contraints de s'acquitter tant bien que mal d'une tâche non souhaitée pour la plupart et devant laquelle ils se sentent impuissants. Donc dès lors, la mort du père traditionnel annoncerait-elle la venue du père nouveau de la génération montante, signalant la disparition de l'homme ancien en profit de valeurs nouvelles. La tentation de répondre à la négative est tentante, puisque Jean-Paul Sartre disait « Il n'y a pas de bon père, il n'y a pas de bon père qu'on n'en tienne pas guillé sans humain, mais au lien de parenté qui est pourri. » Voilà, merci à vous. Désolé d'avoir été très long.